France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Le PDG de la SNCF annonce un retour à la normale du trafic ce matin sur les rails après 3 jours de grève, conséquence du droit de retrait exercé par les cheminots à la suite d'un accident dans les Ardennes mercredi. Une collision entre un TER et un convoi routier sur un passage à niveau, accident qui a fait une dizaine de blessés. Le conducteur, lui aussi blessé, était le seul agent SNCF à bord du train. Une situation dénoncée par les syndicats. Les salariés de General Electric doivent voter à main levée ce matin pour décider de leur sort. Réunis en assemblée générale à 10h, la direction leur demande de choisir entre 2 nouvelles options de plan social. L'une réduisant de 111 postes l'objectif initial de près de 800 suppressions de postes. L'autre réduisant à 307 postes, mais en contrepartie d'un plan de réduction des coûts et d'amélioration de la performance du site. Nous sommes en guerre contre un ennemi puissant, a déclaré cette nuit le président chilien Sebastián Piñera. Alors que le Chili est secoué par des émeutes qui ont fait 7 morts en 2 jours, l'état d'urgence est instauré depuis 48 heures pour la 2e nuit consécutive. 10 000 policiers et soldats déployés dans les rues, c'est du jamais vu depuis la fin de la dictature Pinochet. Des affrontements ont eu lieu entre manifestants et policiers dans le centre de la capitale, Santiago, marqué par des scènes de pillage. C'est un procès historique qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis, celui des opiacés. Plusieurs géants pharmaceutiques sont sur le banc des accusés. 2300 plaintes de collectivités ont été déposées. Depuis la fin des années 90, ces médicaments ont entraîné la mort de 400 000 personnes par overdose. Un système de santé et des services sociaux débordés, cette catastrophe coûterait chaque année près de 80 milliards de dollars. Et puis Boris Johnson continue de répéter que le Royaume-Uni sortira bien de l'Union européenne le 31 octobre. Prochain, malgré la demande de report votée samedi par le Parlement britannique. Vote qui a contraint Boris Johnson à en faire la demande à Bruxelles dans un courrier, mais dans une seconde lettre envoyée simultanément et elle signée de sa main. Il encourage Bruxelles à ne pas tenir compte de cette demande.
Voir le monde au plus près, LSD, la série documentaire. Perrine Kervran.
Lichen, moisissures, cèpes, girolles, psilocybes magiques ou amanites toxiques, les champignons sont des millions et ils ont des comportements insoupçonnés dont on a tout à apprendre, y compris l'entraide et la symbiose. Mais pour commencer, il faut choisir. Alors vous êtes plutôt mycophile ou mycophobe ?
Les champignons sortent du bois. LSD, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr. Que se passe-t-il lorsqu'un philosophe s'approche d'une toile de Léonard de Vinci ? Les chemins de la philosophie tentent de saisir l'insaisissable Léonard. Adèle Manrette.
Ben nous, on va essayer de voir les œuvres de Léonard de Vinci à travers le regard des philosophes. Ce sera donc de 10h à 11h.
La Joconde, la Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste ou la Vierge au Rocher, cheminons aux côtés de Léonard de Vinci, les chemins de la philosophie, de lundi à vendredi à 10h et sur franceculture.fr.
Il est 6h02, vous écoutez France Culture, c'est un réveil en douceur avec Tofik Hakem.
Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les matins très tôt, à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. Disponible entre autres sur franceculture.fr. Cette émission est préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Guillaume Ledu. Et comme tous les lundis, c'est l'actualité de la littérature. Aujourd'hui, je reçois Mustapha Benfodil pour son ouvrage « Alger, journal intense » qui paraît aux éditions Macula. C'est un roman façonnant qui mixe plusieurs genres, des textes en fragments, de la poésie, des graffitis, des photos et des dessins et plusieurs histoires en forme de puzzle où s'expriment toutes les langues de l'Algérie d'aujourd'hui et tous les traumas vécus par ce pays ces 30 dernières années.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Mustapha Benfodil, ravi de vous avoir dans le réveil culturel ce matin.
Bonjour.
Pour Alger, journal intense, c'est un roman volontairement chaotique avec une architecture inédite, c'est éclaté et pourtant il y a une histoire et pourtant il y a un propos et pourtant il y a un peu ces 30 dernières années qui vous ont marqué, c'est-à-dire depuis vos 20 ans, en 1988, date très importante d'ailleurs pour les Algériens nés après l'indépendance, puisque c'est les premières émeutes pour plus de démocratie,
c'est ça,
jusqu'à aujourd'hui. Mais par exemple, allez, on va l'écrire ce livre. Quand on l'ouvre, il y a d'abord un poème, une photo, et puis ensuite deux citations, Pessoa et Pierre Guyotat, et puis des papiers, et puis des dessins, et puis plusieurs écritures qui s'entremêlent. De quoi s'agit-il ?
En fait, tout bonnement d'un foutoir. C'est un beau foutoir que découvre une femme qui s'appelle Mounia, qui est dans la vie photographe d'art, qui a un mec qui s'appelle Karim Fatemi. Il se trouve que Karim est astrophysicien, donc dans le civil, entre guillemets. Et puis, il a une passion qui n'est pas tout à fait secrète. Elle a toujours vu écrire. Donc, il écrit de tout. Donc, ça va exactement dans ce qui est restitué à peu près dans le roman. Donc, il y a des aphorismes, il y a des poésies, il y a un journal, bien sûr. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de ça. Et puis, il y a aussi des essais, il y a des romans inachevés. Il y a toutes sortes de post-it aussi, donc des petits bouts de papier. Donc, chaque fois qu'elle ouvre un tiroir, elle tombe sur un bout de papier sur lequel elle écrit quelque chose. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une réflexion, ça peut être une pépite. Et
il faut dire que,
elle doit dealer avec ça au moment où son mari, donc, il décède brutalement dans un accident de voiture. Alors, pour la petite histoire, il meurt le 17 avril 2014. Je crois que pour les Algériens, c'est une date qui n'est pas anodine.
On en parlera.
Et effectivement, si on s'amuse à faire un peu le flashback de son histoire, ça recoupe passablement une histoire qu'on pourrait appeler collective, qui effectivement s'étalerait sur une trentaine d'années depuis les émeutes d'octobre 88.
Parlez-nous de Karim Fatemi, donc votre frère de fiction.
En fait, je souhaiterais affirmer, enfin, ce postulat que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon double littéraire, mais je crois que j'y arriverai très imparfaitement, parce que j'y lui ai prêté, disons, pas mal de ma propre vie, y compris les documents scannés qui ponctuent le récit. Mais il y a quand même une distance avec ce type, c'est-à-dire la preuve, moi je suis à côté de vous et lui il est un peu dans les limbes. En fait, c'est un type qui s'est retiré du monde pour mieux le raconter. C'est quelqu'un à la base qui souffre socialement, c'est un sauvage.
C'est quelqu'un qui cloisonne
aussi
sa vie
aussi dans les étoiles.
Parce que sa femme va découvrir quelques pans de son histoire qu'elle ne soupçonnait même pas.
C'est exactement ça. En fait, la dramaturgie, elle est exactement autour de ça. C'est-à-dire, en fait, à mesure que sa femme va s'aventurer sur ce territoire secret, ce qu'elle appellerait sa tombe de papier, elle découvre effectivement qu'elle a vécu avec une personne qu'elle n'a pas connue. Et ça, c'est le cas de pas mal de monde. C'est-à-dire, on n'est pas très sûr de vraiment connaître les gens qu'on aime. Et donc, le socle du roman est construit autour de cette étrangeté. C'est-à-dire, comment, à mesure qu'elle s'aventure sur ce territoire, elle se rend compte, finalement, elle n'a pas vraiment saisi qui est ce Karim. Par exemple, si je prends juste l'histoire d'octobre 88, il se trouve que, comme artiste, elle a toujours rêvé de monter une expo à Sahchouhada, la place des martyrs, où il y a eu le 10 octobre 88, une fusillade, il y a eu beaucoup de morts. Elle a rêvé de s'emparer de ce territoire pour monter une expo populaire, où chacun ramènerait sa part d'octobre. Et voilà qu'elle découvre, au hasard de ses lectures en épluchant le journal de son mari, qu'il tenait un journal de ses jours de feu, où elle raconte comment octobre s'est produit à Boufalik, où il habitait, donc dans la plaine de la Métidja près d'Alger, et comment il a vécu ça aussi comme étudiant à l'université de Babzouar. Et donc, pour elle, c'est un matériau magique, c'est inespéré.
Alors, cette construction, un peu en puzzle, j'avais dit chaotique, parce que je suppose, Mustapha Benfodil, que c'était aussi une manière de raconter l'Algérie, votre Algérie, que d'écrire ce Alger Journal Intense.
Voilà, c'est... Disons, le propos, c'était vraiment de raconter ça, mais vraiment par le bas. C'est-à-dire ce que j'appellerais très modestement le micro-récit, c'est-à-dire donner la parole à l'inaudible. C'est-à-dire, on a cette idée en Algérie, et je pense que pas qu'en Algérie, l'écrasement des grands récits, c'est-à-dire on a surtout le récit officiel qui est quand même assez pesant. Et puis, il y a les petites voix, et nous, on s'intéresse aux petites voix. C'est un peu ça, le job, je pense, des écrivains. C'est vraiment de faire parler un peu ce qu'on pourrait appeler les petites gens. Mais, bien sûr, ça reste une profession de foi. Moi, j'essaie de le faire. à partir de mes propres bouts de papier. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est moi qui ai prêté à ce Karim un peu de sa vie. Et puis,
quand vous dites vos bouts de papier, c'est-à-dire aussi bien les textes, la poésie, les photos, les dessins de vos filles.
Oui,
de
moi
vos
j'ai beaucoup travaillé comme ça. C'est-à-dire, ça a toujours été fragmentaire chez moi. Même ma manière de... D'ailleurs, je dis... pas j'écris un roman, j'ai dit je construis. Donc quand vous avez utilisé le mot architecture, est vraiment à propos. Et en citant octobre, justement, il se trouve qu'à l'époque, je tenais un journal. Bon, je n'ai pas commencé au moment où ont éclaté les émeutes d'octobre. Je rappelle à nos amis auditeurs qu'en Algérie, s'est produit un peu le prélude de ce qui est a été appelé par la suite le printemps arabe. En Algérie, il y a eu un soulèvement populaire. Donc,
contre le parti unique.
Voilà, contre le régime, etc. Il y a eu environ 500 morts. Et cette histoire, à l'époque, elle n'a pas été suffisamment, à mon sens, documentée. Y compris dans le cinéma, à part Otton de Al-Khdahamina, à part... bon, on a les textes de Sass, on a les textes d'Abd Sharaf, on a les textes d'Anwar Ben Malek, mais ça reste plus... on est dans le témoignage. Mais je veux dire, dans les œuvres de fiction, dans les arts plastiques, dans le théâtre, dans le cinéma, j'ai pas trouvé de traces. Très très peu. Il y a Salim Bashi qui en parle aussi dans Ciel d'Ulysse, mais par bribes. Et donc, je suis parti de cette carence.
Et de vos 20 ans.
Oui, oui.
Surtout parce que
moi, j'avais 20 ans effectivement à l'époque. Et pour moi, c'était une claque, octobre. C'est-à-dire, moi, je vivais justement dans cette espèce de torpeur comme ça, cette gangue qui étouffait le peuple. Et là, un jour, d'ailleurs, il y a un passage qui commence par ça. Chadli assassin. Chadli, c'était le président de l'époque. Et pour moi, c'était juste une déflagration incroyable. Et donc, c'était une manière aussi de documenter ces moments-là et de raconter par le bas. Donc, on est au plus près des individus et des personnes. On n'est pas dans les grands récits, on n'est pas dans le discours, on n'est pas dans un objet rhétorique.
Mais il y a une partie, bien sûr, documentaire, et ça, on l'a compris, ne serait-ce que parce que ce journal va aller au-delà d'octobre 88. Il va traverser ce qu'on a communément appelé la décennie noire. Vous racontez, grâce à cette architecture littéraire que vous avez eue, Mustapha Belfodil, vous racontez aussi bien les moments d'intense bonheur que va connaître ce couple avec la naissance des enfants et aussi l'histoire tragique de l'Algérie.
C'est ça. En fait, c'est toujours Mounia qui mène le bal parce que c'est elle qui va se livrer à ce qu'elle appelle une autopsie sur le corps du texte. Et donc, au départ, le contact avec cette transmission qui n'en est pas une parce qu'il a pas, il lui a pas légué ce patrimoine de papier en fait. Il est mort, il y avait un journal, elle commence à lire le journal et là s'engage un travail de deuil assez particulier dans mesure elle va écrire sur le journal de son mari. Et il s'engage à une espèce de dialogue absurde. Mais après elle va se lâcher, elle va commencer à fouiner dans les autres textes, dans les autres
comme une
carnets.
Enquête. Ça, voilà, c'est le côté, c'est ça. Exactement. Côté vraiment polar
elle se prend effectivement au jeu, se pique au jeu. Et c'est en remontant ce fleuve qu'elle va tantôt s'arrêter sur des épisodes tout à fait intimes, comme la naissance de leur fille Layla. Neyla, voilà, le lapsus en fait, dit
voilà,
tout.
C'est
d'ailleurs,
c'est, le vrai
fils, c'est elle qui a commis les dessins qui sont dans le roman. Et puis, il y a d'autres fois où elle va buter sur des choses qui sont de l'ordre de l'histoire collective. Donc, ça va être justement ces moments où elle va découvrir, par exemple, que son mari a été enlevé. Chose qu'elle ne savait pas, mais finalement, on se rend compte que ce n'est pas uniquement son enlèvement à lui qui est en cause, mais l'enlèvement de tout un peuple.
Ouais, c'est comme si c'était une boîte noire, d'ailleurs. Vous le dites,
c'est une boîte noire.
Vous le dites, Mustapha Bonfodil, dans Alger, journal intense. Alors, ce qui fait votre force, c'est que vous écrivez en français en essayant d'inventer une littérature algérienne. C'est-à-dire que vous étiez un des premiers à utiliser les mots de tous les jours qu'on entend en Algérie et d'essayer de trouver le moyen de les injecter dans vos textes, dans votre poésie. Je me souviens très bien de votre premier roman qui s'appelait Zarta. Zarta, ça ne dit à personne, mais quand on sait que c'est l'histoire de quelqu'un qui a déserté, qui a quitté l'armée.
La racine, c'est déserté.
Donc ça vient de déserter.
Voilà, c'est un arabe purement algérien, donc il est vraiment
c'est
composé.
C'est pas du tout arabe, justement.
C'est un mix entre la racine française désertée et puis cette...
Absolument, cette manière de...
Cette résonance algérienne.
D'ailleurs, c'est pour ça que pour l'édition française de votre dernier ouvrage, d'abord sorti en Algérie chez Barzac,
voilà, donc, sous le titre Body Writing, Vie et mort de Karim Fatimi.
Là, c'est sous le titre Alger, journal intense que ce livre paraît aux éditions Macula, et à la fin, vous étiez obligé de rajouter un petit glossaire.
C'est ça, ouais. En fait, dans mon rapport au français, je dirais que c'est une langue à laquelle j'ai un rapport amoureux. et que je trempe allègrement. Donc, de la même manière que mon premier roman publié s'intitule Les Artas, donc une déformation du verbe déserter, le dernier, je l'avais intitulé au début Body Writing, en anglais. Après, chez Macula, on a choisi Alger Journal Intense. Mais en creux, ça a dit aussi un rapport à la langue française. C'est-à-dire, c'est cette liberté-là que je revendique fondamentalement.
Et pourtant, dans votre livre, on peut même tomber sur des textes en arabe, voilà. Notamment la poésie de Mahmoud Derwish.
Mustapha, il y a aussi des petits passages sous le titre « Choses entendues ». Par exemple, il y a un passage où... la narratrice qui raconte ça, elle dit, je suis tombée sur un bout de papier où tu as écrit ta rencontre avec un chauffeur de taxi qui faisait la ligne Babloued Place Odin à Alger, et qui lui dit, vous savez d'où vient la formule normalement? Ça vient de normalement, c'est-à-dire selon la langue des Allemands. Et ça, c'est vrai de chez vrai, c'est-à-dire c'est un chauffeur de taxi que j'avais pris à Babloued, à l'époque j'habitais à Babloued, qui me dit, tu sais d'où ça vient normalement? Ça veut dire c'est selon la norme des Allemands. Et moi, j'ai trouvé ça tellement génial, et je me suis précipité vers mon calepin pour me le noter. Et ça fait partie de ma démarche, c'est-à-dire de cueillir comme ça la langue populaire.
Voilà.
Et qui est pour moi une forme de génie incroyable.
Malaxer la langue française, vous le faites pas juste pour le geste, mais c'est aussi pour essayer de retrouver tout ce qui se dit autour de vous en Algérie, que ce soit en arabe, en argot, en berbère.
Oui, même dans mes reportages, si je suis au Mali, je fais pareil, si je suis en Égypte, je suis pareil. Je cueille de la langue que qui m'entoure. Moi, je trouve que c'est une manière aussi de rendre la langue vivante. C'est-à-dire, c'est...
D'algérianiser le français, vous
D'algérianiser, oui, et puis de casser la langue système. C'est-à-dire, pour moi, c'est faire une place dans la langue système, parce que c'est quand même quelque chose d'étouffant, de lourd à porter, surtout quand on connaît la charge coloniale
justement.
Il y en a qui disent, par exemple, ça participe d'une forme de décolonisation. Moi, je ne sais pas si ça tient de ça ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est une manière de m'approprier cette langue, de casser la langue système et de la rendre vivante. Voilà.
Alors justement, je voulais vous faire écouter une interview donnée en 1966, c'est-à-dire avant même que vous naissiez, Mustapha Benfodil, par Kateb Yassine, qui parle d'une part de la relation qu'il a avec les éditeurs. Peut-on être écrivain algérien édité à Paris, et puis surtout, peut-on être écrivain algérien et continuer, après l'indépendance du pays, à écrire en français?
Les jeux sont inégaux, là. Si vous pensez à une chose, les écrivains algériens, ceux qui sont lus à l'heure actuelle, sont édités en France, par des éditeurs français. Ce sont en général des éditeurs courageux. Le mien l'a été, par exemple. Mais cela n'empêche que c'est un éditeur français et que je suis un écrivain algérien. Dans la vision qu'il se fait de moi, il attend une œuvre qui n'est peut-être pas celle que je dois écrire moi, ou celle que j'écrirais en tout cas si j'étais fixé en Algérie avec un éditeur algérien et des lecteurs algériens. Il y a une équivoque là qu'il faut trancher. Je ne dis pas que cela ne nous a pas servi, au contraire, puisque c'est grâce à ces éditeurs français que nous avons été publiés. Et finalement que nous avons été même amenés à la conscience de notre propre peuple. Mais maintenant, le moment est venu de faire cesser cette équivoque, parce que cela masque un vide ici. En quelque sorte, c'est se rendre complice d'un vide tragique de la culture qui existe ici en Algérie.
Vous pensez qu'il conviendra toujours pour les écrivains algériens de continuer à utiliser la langue française?
Non, je pense qu'il viendra un jour où les écrivains algériens utiliseront l'arabe plus qu'ils ne l'utilisent actuellement. Je pense qu'il viendra un jour où les dialectes berbères seront écrits et que les berbères pourront s'exprimer dans leur langue. Je pense aussi qu'avec le temps, les grandes langues universelles seront toujours mieux connues et qu'il y aura de plus en plus dans le monde entier des écrivains capables d'écrire ou en tout cas de passer d'une langue à une autre.
Voilà, c'était en 1966, Kateb Yassine. Réaction, Mustapha Benfodil, les choses n'ont pas tant changé que ça.
On se rend compte que le débat...
est toujours d'actualité.
Oui, avec la même âpreté, à ceci près que quand même je note qu'il y a énormément de choses qui ont évolué depuis. Il y a quand même un champ de langue arabe qui est extrêmement fort. Il y a une production extrêmement riche, y compris esthétiquement. Il y a des formes nouvelles qui me donnent des claques. Tous les jours, si je prends par exemple Amal Bouchoualob, si je prends Salah Badi, si je prends Lamy Saïdi, il y a vraiment beaucoup
d'auteurs
qualité,
qu'on ne connaît pas d'ailleurs.
Voilà. Il y a même un courant d'écriture en langue amazigh avec des éditeurs, avec des prix littéraires. Par exemple, je pense au travail de Brahim Tazarat.
Il y a une maison d'édition qui s'appelle Tirek, ça veut dire écriture. Continue à écrire en français. Mustapha ouais. Benfodil, quand Kateb Yassine disait que le passage obligé, c'était quand même la reconnaissance du milieu parisien des éditeurs.
Non, je pense que ça a changé. Depuis, quand on voit le travail, par exemple, qu'Abba Barzakh, c'est phénoménal. C'est-à-dire, il y a plein d'éditeurs, plein d'auteurs qui étaient publiés chez Barzakh avant de venir à Paris. Je pense par exemple à Kawtar Hademi, qui est pour moi très très talentueuse. Bien sûr, il y a le phénomène meilleur sur contre-enquête, notre ami Kamal Daoud. Mais pas que, hein. Il y a en tout cas une pléthore de maisons comme ça qui arrivent.
Enfin, ce sont des exemples qui vont plutôt dans le sens de ce que disait Kateb Yassine. Il faut passer par un éditeur
français. Non, mais après, pour la reconnaissance,
pour se faire connaître dans le monde, ouais.
Mais ça dépend. Moi, des trajectoires de chacun. Moi, personnellement, je ne suis pas obsédé par la reconnaissance de Germano Pratin. Hein. C'est pas quelque chose avec lequel je me lève en me disant il faut absolument que je sois...
Non. Mais c'est ce
bien
qui
sûr,
vous rend
je suis heureux de rencontrer des personnes et des lecteurs. Par contre, c'est quelque chose qui m'aime.
C'est ça qui vous donne cette liberté, effectivement, d'écrire le français, comme on le parle, comme on l'entend en Algérie.
En fait, juste pour remettre les choses dans leur place, dans mon écriture, on trouve ce qu'on pourrait appeler une langue triviale. Par exemple, c'est quelque chose parfois qu'on me reproche. On me dit, ouais, t'es vulgaire, il y a beaucoup de gros mots, des dodins dans tes textes. Il y a des mots savants, il y a des choses. Par exemple, il y a un manifeste qui s'appelle « Manifeste pour un Dieu humain », qui est un peu spirituel. Après, on trouve une langue populaire. Mais, par exemple, mon roman « Archéologie du corps amoureux », j'avais même, moi-même, disons, choisi une étiquette. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant choisir une étiquette. Et j'ai choisi « Pop littérature », qui est deleuzienne à la base. Mais je dirais que oui, c'est une manière de m'approprier le français, c'est une manière de l'humaniser, c'est une manière de l'algérianiser. Et c'est une forme de liberté par rapport à cette langue, de dire, non, ce français-là, ça m'appartient, c'est mon français. C'est à moi.
Le réveil culturel de Tofik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr. Le réveil culturel. Tofik Hakem.
Je me présente, je m'appelle Mousse et je vis ici. On dirait pas comme ça, mais je viens de Californie. Oui, mon daron parle bien français et moi presque anglais. Oui, ma daronne est fière de moi et de la JSK. Je me souviens quand tout petit, l'école terminée, cartable jetée, je monte sur ma porte pour ce qui était tout l'été. Quand ma daronne par la fenêtre me crée Mustapha. Va faire ton sac, chérie, car demain on part au neblé. Et puis je lève mon verre et mon majeur en l'air. Au futur, au passé, à Paris, à Alger. À ceux qui m'aiment ou pas, à ceux qui sont comme moi. Mustapha, c'est moi, alors qui fais-moi. Alors qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi. 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 Qui fais-moi, qui fais-moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Oui, c'est moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Ça fait marre. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Oui, c'est moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Qui fais-moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Oui, c'est moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Ça fait marre. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Oui, c'est moi. Qui fais sketch, qui fait rush, qui veut bled. Qui fais-moi.
Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris. Undercover comme un rocker, je te raconte ma vie. Je suis un skater, je pars à Belloum et je vis la nuit. Je serai toujours au whisky loup, koum koum, Kabylie parmi. C'était curial ou tizi, croissant au beurre ou chami. Entre les deux, un holly, Paris, Alger, tizi. C'était curial ou tizi, croissant au beurre ou chami. Comme un pot que je vis ma vie, à Hel Kabylie parmi.
Oui, je sais, un jour je serai comme toi. Je serai parti de ta vie.
Qui fait sketch, qui fait rush, qui veut bled, oui c'est moi. Qui fait sketch, qui fait rush, qui veut bled, ça fait marre. Qui fait sketch, qui fait rush, qui veut bled, oui c'est moi. Qui fait sketch, qui fait rush, qui veut bled, qui fait moi. Qui fait sketch, qui fait rush, qui veut bled, oui c'est moi. Qui fait sketch, qui fait rush, qui veut bled, ça fait marre. Qui fait sketch, qui fait rush, qui veut bled, oui c'est moi. Qui fait sketch, qui fait rush, qui veut bled.
Un autre Mustapha qui malaxe le français, celui du groupe Bagarre Kabylie Forni. C'était pour vous, Mustapha Benfodil.
Merci, j'ai beaucoup apprécié.
Comme quoi, des deux côtés de la Méditerranée, on peut réinventer sans cesse la langue. Alger, journal intense, paré aux éditions Macula. Et Mustapha Founfodil, dans cet ouvrage très intéressant, à travers une fiction, vous racontez vos 20 ans à Alger, quand éclatent les émeutes d'octobre 88 contre le régime du Parti Unique, et les années d'après, celles des espoirs douchés par la violence de la guerre civile qui a duré une décennie. Mais les combats continuent. Vous n'êtes pas seulement écrivain, Mustapha Founfodil, vous êtes aussi, je dirais même, vous êtes d'abord journaliste, grand reporter au quotidien francophone algérien Al Watan. Du coup, on aimerait avoir votre analyse de ce qui se passe en ce moment en Algérie, vu que les élections présidentielles en Tunisie, la situation à Hong Kong ont quelque peu éclipsé les marches pacifiques des vendredis en Algérie, hein, des marches depuis le 22 février, ça n'arrête pas. Alors, les grandes figures, bien sûr, des 20 ans de règne du président Bouteflika ont été arrêtées, emprisonnées ou exclues du champ politique. Aux dernières nouvelles, l'armée a réussi à imposer une date pour des élections présidentielles, prévues donc le 12 décembre. Élections rejetées, semble-t-il, par une partie importante des manifestants. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment en Algérie? Qu'est-ce qui s'y joue? Quelle est votre analyse de la situation, Mustapha Bonfodil?
D'abord, une indignation. Vraiment, j'aimerais exprimer une pensée pour Karim Tabou, qui a été arrêté mercredi dernier en septembre. C'est l'une des principales figures
De
l'opposition en Algérie.
Il était le premier secrétaire du FLN. Démocratique, bien sûr. Oui.
Et il y a, juste avant de venir, il y avait de 22 personnes qui ont été mises sous mandat de dépôt. Donc, ils sont incarcérés. Elles ont été arrêtées vendredi dernier. Donc, c'était au 30e round du Hirak. Et ça, ça n'augure rien de bon. Oui, c'est le moment de contestation. Moi, j'aime bien le mot Silmia aussi, ouais. Qui veut dire pacifique. Et justement, c'est sur ce mot que tout va se jouer, c'est-à-dire est-ce que les Algériens vont continuer à supporter les provocations en série du régime? Parce que l'histoire était belle jusqu'au 2, il y a eu la chute de Boutef, son clan a été décapité. Après, c'est une autre histoire qui a commencé, c'était donc le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, patron de l'armée, qui a pris le pouvoir. Il s'est approprié le mouvement, il a réglé ses comptes. Et là, il veut imposer une marche forcée vers une présidentielle truquée à la base, c'est-à-dire c'est encore une présidentielle bidon. Les Algériens, ils ont réussi, parce qu'il faut bien le souligner, ils ont réussi à faire capoter deux présidentielles, le 18 avril et celle du 4 juillet. Et là, visiblement, le régime donc s'énerve. Et il veut imposer donc une date. Et là, ça vient d'être fixé, c'est le 12 décembre. Alors, à mon sens, ça va pas être facile, encore une fois. C'est-à-dire, même si, avec la répression, lui, il compte intimider les manifestants pour voter, pour imposer un candidat qui, visiblement, ils ont dans leur tête, parce que...
Ouais, mais ça, vous en êtes sûr? Qu'est-ce qui vous dit que ces élections vont être truquées?
En fait, c'est parce que tout le préalable, d'abord, ce qu'on appelle... parce qu'il y a eu une phase de dialogue où les gens parlaient de préalable. Le préalable, c'était quoi? C'était d'abord de libérer les détenus d'opinion. Ils ont dépassé actuellement, ils sont à peu près à 80. Il n'y a pas très longtemps, ils étaient une soixantaine, donc là, ils sont à peu près à 80. Il y a les médias lourds qui sont verrouillés, totalement verrouillés. Ça ne devrait pas une image sur le mouvement populaire. Il y a les accès vers la capitale, oui, qui, par exemple, les manifs, il y a des dispositifs sécuritaires atroces qui étouffent les manifestants. Il y a le gouvernement actuel, donc c'est un gouvernement hérité de l'ère Bouteflika, donc qui est dirigé par un chef de gouvernement qui était ministre de l'Intérieur de Bouteflika. Il y a les députés qui ont voté les deux amendements sur la loi électorale. Il y a aussi un projet de loi qui porte création de l'autorité indépendante des élections. Donc ces députés-là et ces sénateurs-là, ce sont les députés de l'ère Bouteflika. Donc c'est une aberration sans nom.
Député.
Non, je suis pas du tout dépité, je suis juste réaliste, j'ai les pieds sur terre, je pense que c'est important pour avancer, c'est d'avoir une bonne analyse de la situation, même si peut-être les choses, on aurait espéré qu'elles aillent un peu plus vite, ça va prendre un peu plus de temps.
Mais le combat
continue. Mais le temps joue pour nous, enfin je joue pour, pas uniquement pour moi, parce que moi je fais partie intégrante de ce mouvement, il joue pour le Hirak, oui.
Merci Mustapha Bonfodil d'être venu d'abord pour parler de ce roman que je vous recommande vivement, Alger, journal intense aux éditions Macula, et aussi pour nous avoir un peu éclairé de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour à 14h, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Le procès du siècle s'ouvre et c'est le capitalisme qui se trouve sur le banc des accusés. Jamais les critiques n'avaient été si nombreuses contre la concentration extrême des richesses et la recherche effrénée du profit. Le capitalisme, vieux d'au moins 5 siècles, doit-il se perpétuer? Peut-il se réformer? Ou faut-il au contraire hâter sa disparition? Voilà les causes qui seront plaidées à la barre. Accusé capitalisme, levez-vous.
Entendez-vous l'écho, de lundi à vendredi à 14h et sur franceculture.fr.
Écoutez, prenez le temps d'écouter. Au cœur de Paris, l'auditorium de Radio France accueille plus de 200 concerts. Symphonie, concerto, chœur, jazz, récital, opéra, avec les artistes les plus prestigieux. Prenez le temps de vous retrouver à l'auditorium de Radio France. Entrez au cœur du concert. Abonnement et réservation, maisondelaradio.fr.
Vous êtes sur France Culture, tout de suite le journal de 6h30 avec Sophie Delpont.
Bonjour à tous. La direction de la SNCF promet un retour à la normale pour ce matin après 3 jours de perturbation du trafic, conséquence d'un droit de retrait invoqué par les syndicats après un accident dans les Ardennes mercredi. Droit de retrait ou grève surprise, nous entendrons l'analyse de Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. 7 morts dans des émeutes au Chili, des milliers de militaires déployés dans les rues de Santiago, 2 jours d'état d'urgence décrétés dans le pays. C'est une situation inédite depuis la fin de la dictature Pinochet. Explication à suivre avec Nabil. Amel. En Catalogne, qui se cache derrière le mouvement Tsunami démocratique? Reportage à Barcelone avec notre envoyé spécial Thibault Lefebvre. Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, promet que tous les billets qui n'ont pas pu être utilisés seront remboursés et la mise en place d'un fonds d'indemnisation de 1 million d'euros pour indemniser les voyageurs qui n'ont pas pu prendre leur train. 4 jours après le droit de retrait exercé par les cheminots, après un accident survenu mercredi, ayant fait plusieurs blessés sur un passage à niveau avec un seul conducteur à bord du train dans les Ardennes. Droit de retrait ou grève surprise, pour Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, c'est surtout un manque de dialogue social à la SNCF.
Y a-t-il grève ou y a-t-il mise en œuvre d'un droit d'alerte de retrait que l'ensemble des cheminots peuvent activer? Nous sommes aujourd'hui là dans une situation où le gouvernement dit non, ce n'est pas un droit d'alerte et de retrait parce que c'est généralisé, il n'y a pas danger grave et imminent. Il y a probablement besoin de discuter de l'existence d'un seul agent dans certains trains, c'est-à-dire l'équipement agent seul. Il y a probablement dans un contexte où la sécurité s'est beaucoup dégradée à la SNCF ces dernières années, matière à de très sérieux efforts sur le sujet, mais il n'y a pas forcément matière à arrêter brutalement le travail sans respecter la loi de 2007 sur le dialogue social. Ça, c'est le regard de la direction, c'est le regard aussi du gouvernement, et si des personnes agitent le droit d'alerte et de retrait pour en fait faire grève, c'est un contournement de cette loi sur le dialogue social et c'est susceptible d'être sanctionné. De l'autre côté, les syndicats disent non, non, il y a matière à droit d'alerte et de retrait. Tout ceci pourrait être apprécié par les tribunaux, mais le contexte est aussi important que les faits eux-mêmes. Le contexte est que, à l'approche de la grande manifestation envisagée par les organisations syndicales le 5 décembre à la RATP, à la SNCF, dans quantité d'autres entreprises, on sent bien un bras de fer, une pression grandir entre les syndicats et le gouvernement.
Bernard Vivier au micro de Sarah Ders. Le PDG de la SNCF, Guillaume Pepy, a annoncé son intention de saisir la justice pour faire reconnaître qu'il s'agissait d'une grève surprise. Et Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, a indiqué que des sanctions individuelles pourraient être prononcées. Les salariés de General Electric vont devoir voter à main levée pour décider de leur sort ce matin. En Assemblée Générale, ils devront choisir ou non de valider le projet soumis par la direction et qui divise les syndicats. Projet qui prévoit la suppression de 500 postes au lieu de 800, mais au détriment de plusieurs de leurs acquis sociaux, notamment une réduction du nombre de RTT. Certains sont sur le piquet de grève depuis 13 jours. Devant l'usine, c'est un reportage d'Adeline Divou.
Des rires autour d'un café derrière un feu qui crépite. L'ambiance est plutôt bonne sur le piquet de grève pour les quelques salariés présents. Mais au fond, certains n'y croient plus vraiment, comme Jimmy qui n'ira pas voter ce matin.
Moi, pour moi, c'est foutu. De toute façon, c'est juste déplacer le problème, ben, on va attendre un peu l'échéance finale. Quoi.
Denis non plus ne se rendra pas au vote. Il estime que le système de la main levée n'est ni représentatif ni juste.
S'ils font un vote vraiment en bureau, où là on peut vraiment donner notre avis, où tout le monde sera écouté, oui. Mais là, il y a les gens, s'ils sont pas là, ben, ils vont pas lever la main. Il y a des gens, ben, ils vont être forcément un petit peu influencés. Un tel a levé la main, moi je sais pas si je vais lever la main.
Les piquets de grève installés à l'entrée des sites de Belfort et Bourgogne depuis le 8 octobre doivent normalement être levés à midi à l'issue du vote. Mais le combat n'est pas fini, estime Stéphane, délégué CGT.
C'est qu'un commencement. On va lutter autrement, on va faire des actions, on va défendre les copains qui seront en danger. Parce que je pense qu'ils viendront quand même nous taquiner.
Quoi comme action par exemple?
Je sais pas, on verra avec les camarades, c'est les gens qui choisissent, c'est pas nous, nous on les accompagne.
Plus qu'à attendre l'avis des salariés sur le sujet ce matin. S'ils disent oui au dernier accord proposé par la direction, les syndicats pourront rouvrir les négociations jusqu'à fin novembre.
Et la CGT annonce qu'elle ne signerait pas l'accord. Légalement, la direction n'a besoin que de la signature de deux organisations, la CFE-CGC et Sud, qui sont majoritaires. 7 morts au Chili après 2 jours d'émeutes. Nous sommes en guerre, a déclaré cette nuit le président Piñera. Une crise partie de l'annonce d'une hausse des prix de tickets de métro dans la capitale, Santiago, vendredi. La colère s'est ensuite vite répandue à d'autres villes du Chili. Elle a en tout cas surpris par son ampleur. Le président chilien qui a renoncé à sa mesure le lendemain. Mais le fait d'avoir décrété un couvre-feu et nommé un général pour le faire respecter n'a fait qu'attiser la colère, Nabila Hamel.
État d'urgence imposé pour 15 jours, couvre-feu de 22h à 7h du matin, déploiement de 8000 soldats et policiers à Santiago. Cette réponse du gouvernement a exacerbé la colère des manifestants. Bus, voitures, matériel urbain et supermarchés incendiés ou saccagés, des stations de métro dégradées, retour également des concerts de casseroles comme au temps de la junte de Pinochet et des portraits de disparus de cette période ont été brandis dans les rues. Le déclencheur de cette colère a été la hausse du prix du métro dans la capitale pendant les heures de pointe. Le ticket devait passer de 800 à 830 pesos, soit 1,04 euros après une première augmentation de 20 pesos en janvier dernier. Pour une ville de 7 millions d'habitants, très polluée et congestionnée, c'était la mesure de trop car les transports en commun sont très utilisés pour se déplacer à Santiago. Le président de centre droit, Sébastien Piñera, est certes revenu sur sa décision dès que la rue a bougé, mais le mouvement s'est transformé en ras-le-bol général et s'est étendu à d'autres villes comme Valparaiso et Concepción. On en a marre des abus, le Chili s'est réveillé, des slogans relayés par les réseaux sociaux pour protester contre le coût élevé de la vie dans un pays qui compte parmi les plus riches d'Amérique latine, mais où, paradoxalement, les inégalités sont parmi les plus grandes dans cette région.
Nabila Hamel. C'est un procès historique qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis, celui des opiacés. Plusieurs géants pharmaceutiques sont sur le banc des accusés. Depuis la fin des années 90, ces médicaments ont entraîné la mort de 400 000 personnes par overdose. 2300 plaintes ont été déposées. En Catalogne, après de violents affrontements qui ont fait plus de 180 blessés vendredi, la tension est nettement retombée hier, une semaine après le début de la mobilisation contre la condamnation de dirigeants séparatistes dans le rôle dans la tentative de sécession de 2017. Hier, ce sont les anti-indépendantistes qui ont manifesté à Barcelone pour demander l'arrêt des violences. Les organisateurs du mouvement Tsunami démocratique pilotent sur Internet les dernières actions des indépendantistes catalans. Ils restent anonymes, ils sont visés par une enquête pour terrorisme. Ce système permet de mobiliser très vite des dizaines de milliers de manifestants. À Barcelone, Thibault Lefebvre a rencontré les utilisateurs.
Tsunami démocratique, c'est d'abord un site internet qui a été fermé ce week-end par le gouvernement espagnol. C'est aussi un groupe sur la messagerie cryptée Telegram qui rassemble plus de 350 000 abonnés. Mais c'est surtout une application sur téléphone portable qui permet une mobilisation rapide de milliers de membres connectés et localisés, comme Unai, 23 ans.
Les gens, ils mettent s'ils sont disponibles pour manifester. Tout le monde peut accéder, mais si quelqu'un t'invite.
Et c'est là l'originalité de Tsunami démocratique. L'application est un club fermé d'indépendantistes, accessible uniquement grâce à un code. Il faut être coopté par un autre membre pour y avoir accès. L'écrivain Carlos Torné, indépendantiste et défenseur de la liberté d'expression, préfère parler d'un cercle de confiance.
Il y a 2 ans, nous avons eu ce référendum auto-organisé. Le registre des votants, la police a essayé de le craquer. Et chaque fois, il y avait le groupe de hackers qui était capable de vaincre. Ce qui fait qu'il y a toutes ces démarches au plan digital. Toutes les personnes qui participent aux mobilisations sont protégées des interférences de la police.
Et pour échapper à tout contrôle, l'organisation demande à ses membres d'utiliser un VPN, l'unique outil efficace contre la surveillance sur Internet.
Thibault Lefebvre, envoyé spécial de France Culture en Catalogne. Boris Johnson continue de le répéter, le Royaume-Uni sortira bien de l'Union européenne le 31 octobre prochain, malgré la demande de report votée samedi par le Parlement britannique. Vote qui a contraint Boris Johnson à en faire la demande à Bruxelles dans un courrier, mais dans une seconde lettre envoyée simultanément et elle signée de sa main, il encourageait Bruxelles à ne pas tenir compte de cette demande. Un nouveau vote sur cet accord devrait avoir lieu cette semaine, le temps que l'Union européenne décide si elle accorde ou non un nouveau report du Brexit jusqu'à janvier prochain. La météo, de la pluie dominante sur la moitié est du pays, plus de soleil quand on va vers l'ouest aujourd'hui. Les températures aujourd'hui sont comprises entre 11 et 24 degrés du nord au sud, avec 11 degrés à Amiens, 20 degrés à Paris, 24 degrés ce sera pour Ajaccio. Il est presque 6h40 sur France Culture. C'est l'heure du Journal des idées avec vous, Jacques Minier. Bonjour.
Bonjour Sophie Delpont.
Alors, chaque Français bricole son propre système de valeurs. Ce sont les mots de Jérôme Fourquet de l'Institut IFOP qui analyse les évolutions récentes de notre société, Jacques.
Oui, Jérôme Fourquet, spécialiste de géographie électorale donc à l'IFOP. Et dans un livre au titre évocateur, L'archipel français, publié au Seuil, il décrit le processus de dislocation des matrices catholiques républicaines et communistes qui ont longtemps structuré notre pays. Il évoque aujourd'hui dans les pages idées de l'Obs un basculement anthropologique lié notamment à la sécularisation de la société. Parmi les signes forts, la chute du nombre de baptêmes, 42%, mais surtout la disparition d'un référentiel commun. Les républicains anticléricaux méprisaient la religion, mais ils en connaissaient la grammaire, les histoires, les personnages. Pour les nouvelles générations, c'est une langue étrangère. Judaïsme et islam ne profitent pas de la situation et l'on y observe, comme chez certains catholiques, un regain religieux et identitaire. L'écologie pourrait reconstituer une matrice et un ciment entre différentes îles de l'archipel français. Mais pour l'heure, Jérôme Fourquet observe qu'à une époque où toutes les valeurs se sont effondrées, la consommation et les loisirs sont les seuls moyens de trouver et de mesurer sa place dans la société. La crise des gilets jaunes l'a montré, là où le lien civique a été dévasté, il ne reste souvent que la hantise de ne pas chuter socialement et de pouvoir continuer à tenir son rang en consommant. Dans les villages où le maire parvient à lancer des projets communs autour de la transition écologique, par exemple, et à soutenir des associations, le lien social se reconstitue. Peut-être faudrait-il aussi s'employer à réhabiliter des vertus anciennes qui ont fait leur preuve. Dans Le Point, Pierre-Antoine Delhomme rend hommage à Esther Duflo, Nobel de l'humilité. Cette brillante et jeune économiste spécialiste de la lutte contre la pauvreté en a totalement renouvelé l'approche par son aspect très modeste et très pratique. Loin des solutions globales et entre guillemets miraculeuses, elle a mis en œuvre des remèdes à des problèmes concrets, par exemple au Rajasthan en Inde, le don d'un kilo de lentilles aux mères qui viennent faire vacciner leur enfant contre la rougeole. Résultat, un taux de vaccination multiplié par 6. Dans un livre qui vient de paraître aux belles lettres sous le titre « Les vertus communes », Carlo Ossola a entrepris de mettre en valeur les vertus civiques de la vie ordinaire en puisant aux traditions littéraires et morales qui les ont illustrées. Affabilité, discrétion, loyauté, gratitude, urbanité, générosité, ces vertus du quotidien nous préservent de la vanité, de l'orgueil et des dégâts de l'arrogance. Elles rendent la vie aimable en société en nous enjoignant de ne pas peser sur la terre. Le titulaire de la chaire des littératures modernes de l'Europe néo-latine au Collège de France redonne ainsi une actualité politique au manuel de civilité de la Renaissance, en s'inspirant également des Minima Moralia de Théodore Adorno, écrite au lendemain de la guerre pour exorciser le retour de la brusquerie, l'insistance saccadée et la violence qui caractérise les brutalités radicalité fasciste. Chacune de ses vertus communes est annoncée par une anecdote qui la met en situation, comme ce chauffeur de bus à Naples illustrant la placidité, qui répond dans un sourire à un usager impatient, lui faisant remarquer qu'il devait passer à 22h40. « Nous avions rendez-vous, vous et moi ?» Pour Cicéron, l'affabilité est à la base de toutes ses vertus, car il n'est pas de vertu si l'on y joint la mansuétude et l'affabilité. Petite vertu qui a traversé les siècles d'un pas léger, elle préserve les nobles de l'arrogance et c'est pourquoi elle est devenue l'aimable vertu du siècle des Lumières, célébrée par Voltaire ou Diderot. Si elle est la première des vertus sociales, la discrétion, elle, est la première des vertus personnelles. Guichardin et Castiglione la présentent comme une prudence de l'esprit face à la complexité du monde, en quoi elle est synonyme de discernement. La loyauté est une vertu universelle, comme la parole donnée, un engagement de fidélité à soi-même et de réciprocité. Dans son dictionnaire Touareg, Charles de Foucault l'identifie ainsi. La loyauté confère le droit de parler. Et Lawal, avec autorité et légitimité, elle inspire la confiance. Dans le Décaméron, Boccace évoque un marchand de naissance infime, mais de grande bonne foi et loyal, ce qui à ses yeux signifie que, en toutes circonstances, cet homme préfère ce qui est honnête à ce qui est utile. Carlo Sola relève que la prévenance est aujourd'hui dévoyée par la publicité, la captation insidieuse à laquelle nous cédons notre identité pour la simulation de notre profil sur Internet et la prédiction de nos choix à partir de nos préférences. Mais la prévenance, à la fois offre et attente, aussi rapide dans sa sollicitude que douce dans sa retenue, est une belle disposition de l'âme. Elle incarne parfaitement l'adage d'Erasme, Sedens Columba, une colombe posée. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, Poutine au Proche-Orient.
Oui, le président russe se place comme faiseur de guerre et l'homme à la colombe, comme vous le disiez, Jacques Munier. C'est pas lui quand même, le président russe, qui est à l'origine de la trêve de 5 jours dans le nord de la Syrie qui prendra fin demain soir. Là, ce sont les États-Unis qui ont négocié directement avec Recep Tayyip Erdogan. C'est en revanche bien lui, Vladimir Poutine, qui recevra demain le président turc pour tenter de trouver un accord de plus long terme. Quelle est la place de la Russie dans cette partie diplomatique et militaire, elle est relativement incompréhensible, la Russie étant depuis le début de la guerre en Syrie un puissant soutien du régime de Bachar el-Assad. Moscou semble en fait profiter notamment du désengagement américain et occidental, et pas seulement en Syrie, mais dans tout le Moyen et Proche-Orient, et même au Maghreb. Bonjour Julien Nocetti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant-chercheur aux écoles de Saint-Cyr-Couette-Quidan et chercheur associé à l'IFRI. La Turquie semble avoir l'oreille de la Russie et vice-versa. Quels intérêts communs se sont-ils trouvés ?
Eh bien écoutez, si vous voulez, déjà la Russie et la Turquie, ce sont deux acteurs qui se connaissent parfaitement. Et là, pour le coup, 13 guerres depuis des siècles ont permis d'améliorer cette connaissance entre ces deux pays. Mais pour être plus sérieux, c'est vrai que la Turquie, depuis son incursion militaire dans les zones kurdes syriennes, était sous le coup d'une isolation croissante. Avec la réaction à laquelle on a assisté de la part de Trump, les menaces de sanctions de la part de l'Union européenne, et cette Russie qui, partenaire diplomatique sur la résolution de la crise syrienne avec l'Iran, sous le cadre du processus d'Astana, une Turquie qui, au fond, n'avait que la Russie vers laquelle se tourner pour essayer de sortir par le haut, je dirais, d'une situation très très complexe et délicate, à la fois sur le plan militaire, car d'autres acteurs avaient les moyens de contrer la Turquie, mais aussi sur le plan diplomatique, parce que la Turquie, était assez cernée.
Alors qu'il n'y a pas si longtemps, Julien Nocetti, pour insister sur ces relations entre Turquie et Russie, on avait peur que les avions russes entrent dans l'espace aérien turc. C'était fin 2015, un avion de chasse russe avait été abattu par les Turcs, et aujourd'hui les deux dirigeants semblent avoir oublié.
Alors, ils n'ont pas oublié. Ils l'ont passé sous le boisseau, je dirais. Et ça, c'est aussi à replacer dans le contexte d'une relation entre Poutine et Erdogan, une relation personnelle qui est très riche pour être diplomatique, mais en même temps très cynique de part et d'autre. Chacun des acteurs utilisant l'autre à son propre profit. Et ça, c'est quelque chose qui se fait sentir encore aujourd'hui. Et c'est vrai que le chemin parcouru depuis 2015 et cet avion russe abattu par la chasse turque a été un épisode tout à fait marquant dans cette relation bilatérale. Et on se souvient que jusqu'à l'été 2016, donc 9 mois après cet épisode, Erdogan avait dû envoyer une lettre à Vladimir Poutine pour s'excuser de l'épisode, et ce qui ensuite avait permis de rétablir au moins partiellement la relation qui a repris son cours normal aujourd'hui, y compris sur le dossier syrien.
Normal. On est
passé très très loin d'un conflit ouvert à l'époque il y a encore un peu moins de 4 ans.
La Turquie s'est également mise à acheter des missiles anti-aériens S-400 à la Russie en début d'année. Notre invité Jenny Raflik nous en parlait la semaine dernière dans les enjeux internationaux. Qu'est-ce qu'on en a dit en Russie du fait de vendre des missiles anti-aériens à un pays qui, 4 ans plus tôt, avait abattu un avion russe?
Alors c'est un sujet qui fait débat en Russie. C'est une thématique quand même qui n'est pas perçue de façon monolithique, c'est-à-dire la seule vente de systèmes de défense antimissile à un allié de l'OTAN. Vous avez d'un côté des gens qui souhaiteront améliorer la visibilité de l'industrie militaire russe. Et là, les S-400 ont une dimension tout à fait symbolique, parce que c'est un système de défense très sophistiqué, très sensible aussi, parce que c'est pas seulement une défense antimissile, mais ça inclut des éléments de reconnaissance et de renseignement. Donc c'est tout à fait symbolique également. Et à l'heure actuelle, seule la Chine en a acheté jusqu'à présent. D'autres pays sont aussi en négociation, mais la Turquie est symbolique parce que c'est un membre de l'OTAN et un membre tout à fait significatif. Et de l'autre côté, en Russie, vous avez un autre pan, si vous voulez, de l'establishment qui mettra en garde sur l'utilisation qu'en fera la Turquie, à plus forte raison que Ankara souhaiterait qu'il y ait des transferts de technologie qui soient apportés par les Russes avec la livraison de matériel. Donc c'est quelque chose qui fait débat, y compris à Moscou, où c'est un sujet quand même très sensible.
La Russie qui veut détourner la Turquie de l'OTAN ou alors en faire son cheval de Troie, on ne sait pas vraiment encore quels sont ses desseins. Julien Nocetti, Vladimir Poutine s'impose aujourd'hui dans les discours comme le grand vainqueur, le faiseur de paix, ce sont les expressions qu'on lit. En ayant fait quoi au fond? Est-ce qu'il est vrai de dire que la Russie a évité un bain de sang? Est-ce qu'il est vrai de dire que la Russie est un protecteur des Kurdes, par exemple?
Alors, si une protectrice. Ce qui est assez frappant, c'est que la Russie, depuis quelques années, depuis son engagement en Syrie en 2015, elle maximise ses avantages, mais en agissant assez peu, au fond. C'est-à-dire que d'un côté, elle assiste à l'affaiblissement des solidarités occidentales. Et là, dans le cas présent de ces derniers jours, les alliés européens et américains se sont encore une fois fâchés, ébrouillés. Ils sont opposés aux États-Unis, ce qui affaiblit l'OTAN une nouvelle fois, et ce qui contribue aussi à creuser la faille entre Turcs et Américains. Donc c'est une situation au fond tout à fait favorable à Moscou. Moscou qui sait parfaitement tirer parti des erreurs des autres et s'engouffrer dans la brèche, je dirais, comme en août 2013 d'ailleurs, lorsque le président à l'époque américain Obama avait décidé de ne pas frapper Damas en vertu de lignes rouges qu'il avait fixées. Aujourd'hui, on est dans une situation où Washington est une nouvelle fois en faiblesse, où la Turquie se retrouve isolée par le fait de son action vis-à-vis des Kurdes syriens, et la Russie observe et agit en conséquence. Donc il y a une façon très très tactique aussi d'agir au Moyen-Orient qui fait sa force. Il n'y a pas de grande stratégie russe, mais une tactique poussée à son paroxysme qui fait que la Russie sait sentir les situations.
Avec sur la question kurde, en deux mots, Julien Nocetti, les Russes qui effectivement, dans la ville par exemple de Manbij, dans le nord de la Syrie, a évité une attaque des troupes syriennes, des troupes turques et avec les Kurdes, mais qui par ailleurs, quand les Kurdes se faisaient massacrer à Afrin en 2018, eh bien protégeaient l'espace aérien, le contrôlaient, en tout cas ils ne sont pas intervenus. Donc une alliance de circonstances avec les Kurdes aussi.
Une alliance circonstance, et je dirais même plus, ça serait peut-être une variété d'ajustement, hein, comme les Kurdes le sont aussi pour les Américains, ce qu'on a très, très bien vu, hein, malheureusement, il y a quelques jours. Mais effectivement, vous faisiez référence à Afrin en début 2018, où les Russes avaient laissé les YPG, hein, les miliciens kurdes dépendants du PKK dans la ville face à l'opération turque bouclier de l'Euphrate. Donc les Kurdes déjà à l'époque avaient été laissés à leur propre sort face à une situation qui était déjà très menaçante pour eux. Donc dans la situation actuelle, je pense que la Russie est prête à les abandonner si des intérêts supérieurs le commandent. Donc c'est une façon aussi très cynique et très réelle politique en fait d'agir sur le terrain. Et quand on parle d'alliance historique entre Kurdes, notamment syriens et la Russie, j'aurais tendance à nuancer un peu ce propos quand on voit ce qui se passe concrètement sur le terrain.
Julian Osseti, vous parliez de la façon dont Vladimir Poutine a de s'engouffrer dans la brèche, en l'occurrence la place laissée vacante par les Américains. C'est vrai dans toute la région. On a vu Vladimir Poutine rendre visite la semaine dernière à la monarchie saoudienne. Il est allé à Riyad, allié des États-Unis de longue date, engagé dans un conflit froid avec l'Iran. C'est nouveau, cette relation de confiance, comme il dit Vladimir Poutine, avec Riyad, où c'est un signal envoyé aux États-Unis, c'est quoi ?
Alors, oui et non. Alors, non, parce que c'est une visite qui fait suite à plusieurs séquences où on a vu d'abord le roi Salman se rendre à Moscou à l'automne 2016. Donc première visite d'un monarque saoudien en exercice dans la capitale russe. Donc ça a été perçu de façon très très symbolique. Et deuxièmement, le prince Ben Salman s'est rendu, lui, à plusieurs reprises en Russie et rencontre Poutine de façon régulière, notamment dans le cadre d'un accord pétrolier qu'on appelle OPEP+, et qui fait interagir de façon très étroite les Russes et les Saoudiens pour stabiliser les marchés pétroliers. Et là, lorsque Poutine s'est rendu à Riyad la semaine dernière, Russes et Saoudiens ont une nouvelle fois scellé leur entente pétrolière, et qui est pour le coup assez historique, sachant que la Russie n'appartient pas à l'OPEP, hein, n'est pas membre de l'OPEP, du cartel.
C'est un allié.
Aujourd'hui, interagit très étroitement avec les Saoudiens. Tout à fait. Il a été également question d'accords commerciaux entre Russes et Saoudiens, qui là aussi sont au fond sont assez inédits, mais d'un autre côté font également penser que les Saoudiens ont la fâcheuse tendance à se servir de la Russie pour essayer de peser dans leurs propres relations aux Américains en proposant de nombreux contrats dans le domaine de la défense, de l'espace, etc.
Ouais.
Pour essayer de tirer des contreparties aussi à la Russie dans certains dossiers, dont la Syrie.
Julian Osseti, un dernier mot très rapidement sur la Russie qu'on a vu intervenir aussi dans le processus de paix en Afghanistan en invitant à des discussions entre talibans et responsables politiques afghans, contrairement aux États-Unis qui avaient exclu ces derniers de la discussion. Quel jeu joue la Russie en Afghanistan après l'avoir envahi en 79 et occupé pendant près de 10 ans ?
Effectivement, on est presque au 40e anniversaire de cette invasion soviétique en Afghanistan. Donc Moscou c'est aussi connaît parfaitement le terrain, connaît bien les acteurs aussi impliqués dans le conflit actuel, et encore une fois observe aussi les erreurs commises par Washington depuis son engagement en 2001 après l'éviction de Ben Laden et des talibans. Donc c'est quelque chose qui est perçu avec peut-être moins de cynisme de la part des Russes que le Proche-Orient, que la scène proche-orientale, parce que les répercussions du conflit afghan peuvent être très directes et très douloureuses pour la Russie, sachant que l'opinion publique russe y est encore très sensible.
Merci beaucoup Julian Osseti d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Au sommaire de ce nouveau numéro, un grand dossier sur l'âme humaine. Sommes-nous tous malades ? Des débuts de la psychiatrie à la psychanalyse et aux neurosciences, des soignants racontent. À découvrir également, Le Serpent, un animal injustement mal aimé. Un entretien hommage avec Michel Serres et une rencontre exceptionnelle avec Martine Monteil, une vie au service de la police. Papier, disponible en kiosque et en librairie.
Vous écoutez France Culture, bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Votre humeur du jour, tant de pays où règne une protestation sociale.
Et oui, ça ressemble presque au début des printemps arabes, sauf que ce n'est pas le printemps et que ces pays n'ont rien d'arabe. Si l'on voulait faire la liste des lieux où la contestation sociale est présente, on pourrait commencer par la France, là je n'insiste pas, l'Espagne plus exactement la Catalogne, on va en parler aux environs de 7h45. Hong Kong, bon bah là, on l'a suffisamment répété. Haïti, au bord de la guerre civile avec une opposition très vive entre le président et l'opposition. Le Chili, où l'état d'urgence a été déclaré après de nombreux échauffourées. Dans différentes villes du pays, des banques, des bus, le siège de la compagnie nationale d'électricité qui ont été incendiés. Et puis le Liban, avec des marches contre la corruption de la classe politique. Un mouvement là aussi extrêmement suivi, qui n'épargne aucune frange de la classe dirigeante, pas même le Hezbollah, ce mouvement d'origine iranienne à l'influence particulièrement forte au Liban. Et le Liban est d'ailleurs un cas assez édifiant, puisque parmi les causes du déclenchement de la colère, il y a cette drôle de mesure envisagée à un moment par le gouvernement, celle de taxer WhatsApp, vous savez, ce réseau social. Une vraie drôle d'idée, pas si drôle que ça d'ailleurs, puisque WhatsApp est bien souvent utilisé comme un contre-pouvoir, et la spécificité de ces mouvements de protestation, pour parler comme l'universitaire turc Zeynep Tüfeksi, c'est de faire se rencontrer Twitter et des tir gaz, autrement dit des réseaux sociaux et le gaz lacrymogène. Or justement, la semaine dernière dans The Economist, était citée une expérience où on demandait à des étudiants, alors là en l'occurrence ils étaient néerlandais, quel dédommagement il faudrait leur verser si on les privait de réseaux sociaux. Alors pour Facebook, ils réclamaient $42, mais pour WhatsApp, beaucoup plus, $536. Les étudiants néerlandais demandaient $536 en moyenne pour accepter une coupure de cette messagerie. Et ben au Liban, la démonstration est faite, l'accès à WhatsApp n'a pas de prix.